Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, ben je crois que nous pouvons commencer. Merci pour votre présence. Elle est un peu moins difficile, le lieu est moins difficile d'accès que la semaine dernière, mais néanmoins, reste compliqué la circulation dans Paris et la banlieue. Alors je rappelle que nous sommes à un moment de cette analyse dans laquelle, par comparaison, j'essaye de proposer des hypothèses quant à ce que pouvait être cette pièce perdue, qui est l'objet même de ce cours, qui est le Cardenio, joué deux fois, 1613, à la cour d'Angleterre, et dont ne subsiste ni manuscrit, ni édition imprimée. Et pour essayer de construire des hypothèses sur ce que pouvait être le contenu de cette œuvre attribuée 40 ans après les représentations à Shakespeare et Fletcher par un libraire de Londres, Mosley, qui avait l'intention, semble-t-il, de la publier, mais qu'il ne fit jamais, pour essayer de comprendre ce que pouvait être ce travail dramatique ou dramaturgique fait à partir du Quichotte, j'ai pensé qu'on pouvait faire deux détours. Un détour par l'Espagne et un détour qui sera l'objet des prochains cours par la France, puisque le même problème, c'est-à-dire comment faire du théâtre avec la Historia de Cervantes, avait pu être résolu dans deux cas pour lesquels nous possédons la pièce, puisqu'elle a été imprimée, à la fois la Commedia de Guillén de Castro qui a pour titre Don Quijote de la Mancha. Alors j'ai écrit quelques noms au tableau, on me l'a demandé la fois dernière pour que ce soit plus simple et que les noms soient plus immédiatement copiables. D'une part, donc, cette Commedia de Guillén de Castro, Don Quijote de la Mancha, dont la date est incertaine, mais il est sûr qu'elle est antérieure à 1608 et sans doute 1605 ou 1606. Et puis, je regarderai, je ne sais pas, peut-être dès aujourd'hui, ou en tous les cas la semaine prochaine, une tragicomédie française de Pichou qui a pour titre Les Folies de Cardenio. Alors, dans le cas de Guillén de Castro et de cette Commedia de Don Quijote de la Mancha, la semaine dernière, j'avais essayé de repérer ce que pouvait être la circulation, la connaissance, la lecture, l'interprétation du livre publié en 1605, imprimé à la fin de 1604, c'est-à-dire ce qui est pour nous, et ce qui était pour les contemporains à partir de 1615, la première partie de Don Quichotte. Et j'avais essayé de suivre trois fils, l'un qui était évidemment très simplement de rappeler les éditions publiées en castillan avant 1608, c'est-à-dire les trois madrilènes, les deux lisboètes, l'édition de Valence et une édition à Bruxelles en 1607, de suivre des traces de lecture tels qu'on pouvait les rencontrer, par exemple, dans cette relation de ce noble portugais qui assistait aux fêtes en l'honneur de la naissance du prince héritier en 1605 à Valladolid, Tomé Pinheiro da Veiga, et qui montrait sa lecture et l'efficacité de sa lecture, puisque repérant un personnage qui lui paraissait un de ses compatriote qui lui paraissait ridicule, il le désignait dans son texte comme un Don Quichotte. Ou bien, citant à Pedro Cátedra et faisant référence à des conférences que Pedro Cátedra avait fait ici même il y a l'année dernière, ou il y a deux ans, montrer comment un récit d'un voyageur allemand, 1605-1606, qui visait à repérer, comme le disait le titre, les qualités des Espagnols, mentionnait un premier corpus canonique de littérature de divertissement dans lequel la première partie du Quichotte était citée à côté de la Celestina, du Lazarillo et de la première partie de Guzmán de Alfarache. Donc des traces de lecture qui montraient l'enthousiasme, le succès et en même temps l'impact, puisque ces textes fournissaient des manières de voir, des systèmes de référence pour décrire la réalité dans le monde social. Et la troisième piste avait été d'essayer de repérer, dans certains cas, comment les personnages du Quichotte étaient sortis des pages du livre, avant même de sortir sur les planches des théâtres, à travers les masques qui pouvaient avoir été mobilisés à l'intérieur, soit de fêtes courtisanes, de joutes aristocratiques, soit de cortèges carnavalesques. Et les exemples étaient assez nombreux, mais disons, j'avais retenu d'une part une fête en l'honneur de l'entrée du duc de Lerma dans une des nouvelles villes qui lui était concédée par le roi et dans lesquelles, dans le dispositif festif, un moment était une course de taureaux sur la place de l'Ayuntamiento et dans lesquelles, dite la relation, on a représenté l'aventure de Don Quichotte. Et avec plus de détails, puisque là, la relation manuscrite est évidemment beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise. Peut-être j'y reviendrai cet après-midi dans le séminaire. Une fête, un tournoi organisé dans la ville du Pérou, de Pausa, en l'honneur de la nomination d'un nouveau vice-roi de Pérou, et dans lequel il s'agit d'une course de bagues. Il s'agissait d'un affrontement entre plusieurs chevaliers ou cavaliers, pour le moins, qui étaient en compétition pour cette course de bagues. Et parmi les déguisements qu'ils avaient choisis, les masques qu'ils avaient retenus, la grande majorité étaient ceux de cavaliers ou de chevaliers des fables de la littérature de chevalerie, mais l'un d'eux avait choisi et gagna le prix à Paosa en 1607 de se présenter comme Don Quichotte de la Manche, accompagné de son écuyer et de quelques-uns des personnages qui, dans le livre, le suivent. Alors, tout ça pour expliquer comment Guillén de Castro, dans ce texte très précoce, après la publication du livre de Cervantes, pouvait déjà jouer sur des références, des allusions qui faisaient venir à la mémoire du spectateur, anciennement lecteur, des scènes de Don Quichotte avec lesquelles il ou bien jouait pour les donner en représentation sur la scène du Corral de Comédia ou bien simplement par allusion les faisait surgir dans le souvenir de lecture du lecteur devenu spectateur. Alors, je m'étais attaché, à partir de là, à l'analyse de la première journée, de la première jornada de la Comédia de Guillén de Castro, et en insistant sur un fait fondamental qui était la transformation majeure qu'il opérait par rapport au récit du Quichotte, c'est-à-dire de créer un déséquilibre social entre les deux couples d'amoureux. L'un est déjà présent dans le texte de Cervantes, entre le marquès ou Fernando, fils du duc, amoureux au moins pour, en son commencement, d'une fille d'un paysan, certes riche, mais paysan néanmoins, Dorothea. Mais ce qu'introduisait la Guillén de Castro était une symétrie par rapport à ce premier déséquilibre social, puisqu'il faisait de Cardenio le fils d'un paysan amoureux et aimé par ou de Lucinda, la fille d'un noble. Et l'intrigue, on va le voir, retient comme motif fondamental ce déséquilibre des conditions, ce double déséquilibre des conditions. Alors, si l'on entre dans l'analyse du second acte, de la seconde jornada de la Comédia, elle se déploie entre deux scènes très fortes présentes dans l'histoire de Don Quichotte. L'une, cette scène de la séduction de Dorothea par Fernando, telle que la raconte dans le Quichotte la jeune fille lorsqu'elle est rencontrée dans la Sierra Morena par le barbier, le curé et Cardenio qui s'est joint à eux. Et d'autre part, la scène tout à fait spectaculaire du mariage, de l'union forcée entre Lucinda et Fernando, dont Cardenio est un spectateur, au moins jusqu'à un certain moment, caché derrière une tenture ou une tapisserie. Ce qui est frappant, c'est le déséquilibre dans la Commedia d'Eguien de Castro entre ces deux scènes, parce que la première n'est pas montrée, comme s'il était impossible de mettre en scène dans le choral de Commedia cette scène violente de la séduction et de la reddition de Dorothea face aux empressements et aux promesses de mariage du Fernando appelé par Eguien de Castro El Marqués. La scène commence alors que cette séduction a déjà été opérée et c'est Dorothea, séduite et abandonnée, qui est déjà là. Et le marquis rappelle cette scène où il l'a séduite en lui promettant le mariage, et aussi d'entrer de jeu dans ce second acte, rappelant que ses sentiments ont très brusquement changé. Je cite la traduction que j'ai faite, puisqu'à ma connaissance, je n'ai pas trouvé jusqu'à maintenant de traduction de la Commedia dans une forme canonique. « Car moi, qui me vis embrasé, mêlé avec ce feu, ma parole d'être son époux, je lui donnais. » Je la pris, je jouis d'elle, et ensuite je l'oubliais et je l'aborais avec ces densités ou cette condensation du vers de la Commedia. Tomola, gocela, y luego la olvidé y la aborrecí. Donc on a un moment où s'ouvre le second acte sur une scène que l'on ne voit pas, mais qui est déjà là et qui est rapportée à travers ce brusque changement du marquis satisfait dans ses désirs et en même temps abandonnant Dorothea. Et la scène continue avec un dialogue entre le marquès et Cardenio, et qui est un moment intéressant, puisque, comme beaucoup d'autres, cette Commedia est fondée, je le rappelais, sur la tension qui peut exister entre l'honneur tel qu'on ressent comme un sentiment intérieur de sa propre dignité, et d'autre part, l'honneur tel qu'il est reconnu par l'opinion, par le regard des autres. Et Cardenio rappelle au marquis qui lui a raconter cette scène de séduction et en même temps son brusque changement de sentiment, une fois satisfait son désir, que l'honneur suppose le respect de la parole donnée. Sur sa parole, celui qui est honorable fonde son honneur. Sobre su palabra fonda el que ser honrado su honor. On voit ici de nouveau la tension avec la mobilité sémantique qui peut exister et qui, comme je le rappelais, est peut-être plus grande qu'on l'avait suggéré entre les deux termes, honra et honor, qui jouent constamment sur ce double registre, même si ils ne sont pas assignés nécessairement honra con avec le sentiment extérieur, avec le regard des autres, avec la opinion, la fama, la reputación, et honor avec le sentiment intérieur de sa propre dignité. Même s'il n'y a pas cette équivalence sémantique stricte, néanmoins, il y a constamment ce jeu entre le regard extérieur et le sentiment intérieur. Et Cardenio, pour que le marquis ne soit pas totalement traître à cet honneur qui est le sien, lui suggère de donner un mari à Dorothea, qui est une riche héritière de paysans très fortunés. Et le marquis suggère, pourquoi pas vous, toi, Cardenio. Et à ce moment-là, il y a un second moment qui met en jeu dans le début de l'acte cette tension autour de l'honneur. C'est une réplique offensée de Cardenio, qui n'accepte pas qu'on dispose de lui de cette façon, et qui rappelle que malgré sa naissance, de basse condition, fils de paysan, il a un sentiment très puissant de ce qui est son honneur. « J'ai l'âme si honorable que j'estime autant la noblesse que j'ai acquise que celle dont tu as hérité. Esta nobleza adquirida como la tuya heredada. » Et il refuse évidemment cette imposition sur lui, et avec évidemment ce arrière-fond qui est que comme vous vous souvenez, la pièce pouvait avoir reçu un autre titre que le spectateur ne connaît pas nécessairement à ce moment-là, qui est celle des fils échangés. Et l'on voit que se crée progressivement dans toute cette pièce un déséquilibre entre la condition qui est celle de Cardenio, fils de paysan, et le sentiment de son honneur qu'il exprime avec la force qui serait celle d'un fils de noble, alors que le marquis se conduit de manière très éloignée de ce que ça condition ou son état supposerait. Et ce dialogue se termine avec l'aveu de l'amour ou de la passion nouvelle du marquis pour une autre femme, Lucinda, qu'il décrit comme une dame belle, riche, principale, de bon goût et meilleure forme. Et Cardenio comprend évidemment qu'il s'agit de Lucinda. Alors on voit qu'il y a là comme une sorte d'ellipse, c'est-à-dire que la scène de séduction, très développée dans le texte de Cervantes, avec ses mouvements, ses dialogues, ses monologues intérieurs, dans laquelle finalement, jurant par les saints, par la Vierge et par la promesse de mariage, le Fernando de Cervantes, le marqués de Guillén de Castro, arrive à ses fins, est ici caché, occulté, comme un point de départ absent d'un récit et d'un dialogue qui est le récit du marquis et le dialogue entre le marquis et Cardenio et qui met en jeu une des thématiques ordinaires, banales finalement de la commedia. Et l'on sait que Guillén de Castro avait beaucoup d'admiration ou de respect pour Lope de Vega et on trouverait évidemment ici une thématique tout à fait proche de très nombreuses commedias de Lope. En revanche, la scène du mariage est-elle spectaculairement mise en scène pour clore la seconde journée, le second acte du Don Quichotte de la Manche de Guillén de Castro, dont on voit jusqu'à maintenant qu'il se déploie sans la moindre présence de Don Quichotte dans ces deux scènes clés, évidemment. La fin de l'acte, comme chez Cervantes, suit ce moment où Cardenio a été averti par un billet de Lucinda de l'imminence de son prochain mariage. Il se rend dans la maison où le mariage doit être célébré. Il se cache en compagnie d'ailleurs de Dorothea, qui l'a accompagné. Et il est témoin de l'acceptation de Lucinda, alors que celle-ci lui avait promis, dans la scène précédente, avant le mariage même, lui avait promis de résister à cette imposition. Elle le déclare, lorsque son père lui ordonne de donner sa main au marquis, « Oui, je la donne, mais contrainte que le ciel m'en soit témoin. Si la doy, pero forzada, pongo por testigo el cielo. » Et après le départ de Cardenio, frappé par cette acceptation, ce qui est mis en scène dans une forme condensée, rapide, nerveuse, est l'ensemble de ce que décrivait Cervantes, c'est-à-dire l'évanouissement de Lucinda, la découverte sur son sein d'un billet et d'un poignard, papel et pugnal, la fureur du marquis et finalement la fuite de la jeune fille qui affirme dans les derniers vers de l'acte « Je dois prendre une grande résolution que se convertisse en lion une femme offensée ». On voit donc que Guillén de Castro, lui, n'a pas manqué d'exploiter la théâtralité qui était déjà présente dans le récit de l'histoire en prose de Cervantes, mais il la condense dans une action rapide. Il y a moins d'une centaine de vers qui séparent l'entrée du père de Lucinda, accompagné du marquis avant le mariage, et le départ de celle-ci au milieu de la plus grande confusion sur la scène, en particulier avec un échange extrêmement violent entre le père de Lucinda et le marquis. Et la scène avait culminé au moment de l'union des deux futurs époux, avec les paroles rituelles de la cérémonie. Et je crois que ça, c'est un thème, j'essaierai de le suivre aussi dans les pièces françaises, et peut-être dans le séminaire, à partir de la comparaison entre le texte de Cervantes et l'adaptation théâtrale de Guillén de Castro, c'est un thème très intéressant, c'est-à-dire comment est mise en texte ou en scène la scène du mariage. Dans le texte de Cervantes, elle est mise en scène tout à fait normalement, mise en texte tout à fait normalement, avec l'intervention d'un prêtre qui prononce les paroles rituelles du mariage. Il s'agit du curé de la paroisse. Le personnage est absent chez Guillén de Castro et il n'y a pas de curé, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'homme d'église. Et en quelque sorte, c'est le père qui officie dans cet échange de paroles. Ce qui peut conduire à plusieurs commentaires, soit une censure sur la présence d'hommes d'église sur la scène, ou une censure sur la représentation ou l'imitation sur la scène de paroles qui ont un contenu religieux fort et une force de sacralité, ou une autre direction d'interprétation, pas nécessairement contradictoire, pouvant être le renvoi à une théologie du mariage dans laquelle c'est la parole des deux futurs époux qui fait l'union. Et ici, avec l'attention d'une parole qui n'est pas libre, forzada, disait Lucinda, et donc en quelque sorte comme une intervention, une imposition de la volonté du père aux dépens de la liberté de choix, d'élection de la jeune fille. Mais en tous les cas, on a là une scène dans laquelle, par rapport au texte de Cervantes, une profonde transformation est opérée, c'est-à-dire la disparition des paroles de mariage dites par le prêtre, en particulier après les réformes sur le rituel du mariage du Concile de Trente. On voit donc que dans cet acte, il y a, dans une comédia qui a pour titre Don Quixote Arancha, l'essentiel reste en son commencement et en sa fin que l'histoire des amours de Cardenio, Lucinda, du marquis Fernando et de Dorothea. Ce qui ne veut pas dire que Don Quichotte soit absent, et vous vous souvenez que c'est un thème d'interrogation par rapport à la pièce perdue de Shakespeare et Fletcher. Une pièce intitulée Cardenio, où était-elle exclusivement l'histoire tirée de cette, entre guillemets, nouvelle telle qu'on peut la suivre dans le Quichotte, du chapitre de la Sierra Morena jusqu'à la sortie des personnages de la première partie, au chapitre 40, un peu après 45 ou 46. Ou bien est-ce que, malgré le titre Cardenio, Don Quichotte était présent sur la scène de Whitehall, du Palais Royal, dans ce que les deux fois a été représentée cette pièce. Alors, le choix de Guillén de Castro, pour être fidèle au titre, qui exploitait évidemment la circulation première de l'histoire de Cervantes, a été d'introduire Don Quichotte. On l'avait déjà rencontré dans la première Rornada, dans le premier acte, mais avec un rôle tout à fait particulier, spécifique, qui appartenait au répertoire de la commedia, c'est-à-dire le rôle du gracioso, du personnage burlesque, ridicule, qui fait rire. On a souvent dit qu'il n'y avait pas souvent dans ces comédias, Guillén de Castro s'était écarté de ce canon par l'absence de gracioso, mais en fait, dans chacune de ces pièces, des personnages qui ne sont pas nécessairement ceux qui correspondraient le plus immédiatement à l'emploi sont utilisés. Et c'est le cas de Don Quichotte. Et dans ce second acte, la figure de Don Quichotte comme gracioso, comme personnage comique de la comédia, va se lier à un parodie que Guillén de Castro va faire avec à la fois le répertoire de la littérature antique, ou partie de certains textes de ce répertoire, et d'autre part jouer avec la forme poétique donnée à cette histoire. En effet, à un moment donné, Don Quichotte a rencontré à la fois Dorothea et Lucinda et déclare qu'il est capable de défendre l'honneur de ces deux femmes, est capable de vaincre 10 géants. Et il dit, pour ces occasions, je suis Léandre le vaillant. Para estas ocasiones, soy Leandro el animoso. Et Léandre était référé, évidemment, alors immédiatement, la doncella, la servante de Lucinda, entre dans ce jeu, retient le nom de Léandre et se transforme en héros, H-E-R-O, la prêtresse de Vénus. Alors, cette histoire est une histoire qui appartient dans ses formes les plus manifestes à Ovide et à Virgile. Ovide dans les Héroïdes et Virgile dans les Géorgiques, c'est-à-dire héros, prêtresse de Vénus, attendant son amoureux Leandro, mais de l'autre côté de l'Hellespont, l'histoire raconte qu'elle fera brûler une flamme qui indiquera à Léandre qu'il peut se jeter dans la mer, traverser l'Hellespont et la rejoindre. Mais la flamme ne s'allumera pas et l'héros se jettera du haut de la falaise d'où elle attendait Leandro. C'est donc là une histoire qui est un classique de la lecture d'Ovide ou de Virgile et qui avait donné lieu à de nombreux romances et poèmes assonancés octosyllabes qui, avec des vers octosyllabiques qui jouaient avec ce motif, soit pour le prendre au sérieux, soit déjà pour en faire une parodie, et c'est le cas par exemple d'un romance burlesque de Gongora qui date de 1589 et que Guillaume de Castro devait sûrement connaître. Alors, cette histoire présente dans l'esprit de la doncella, de la servante, qui rentre dans le jeu ouvert par Don Quichotte avec cette mention « Je suis Léandre le vaillant » et elle déclare que, comme la prêtresse de Vénus, elle allumera un flambeau au sommet d'une tour où elle attendra son Léandre, c'est-à-dire Don Quichotte dont elle veut se moquer, et la flamme lui indiquera qu'il peut se jeter à la mer pour la rejoindre. Et la petite comédie se construit sous les moqueries de la douaigne, la gouvernante de Lucinda, puisque Don Quichotte et cette servante anonyme, elle n'a pas de nom dans la Commedia de Guillaume de Castro, échangent des paroles qui correspondent au nouveau rôle qu'ils ont assumé. Et Don Quichotte lui déclare « Répétons ce que vous direz quand j'arriverai dans vos bras, mouillé et détruit, mojado y hecho pedazos. » Et la jeune fille lui répond « Je te dirai quand tu arriveras que dans tes hardes mouillées, ah, Léandre de mes yeux. » Ah, Leandro de mis ojos. Et ceci était un des vers des romances qui mettaient en poésie l'histoire racontée par Ovide et sûrement plus connue encore par Virgile dans les Géorgiques. Alors, ce motif n'apparaît absolument pas chez Cervantes, ce jeu entre la servante de Lucinda et Don Quichotte, assumant les rôles de Léandre et de héros, est une invention de Guillaume de Castro, et qui, sans doute, correspondait à une double inspiration littéraire. D'une part, de tirer profit de ces romances, pour certains parodiques qui narraient cette triste histoire, celle de Léandre noyé une nuit où le vent a éteint la flamme qui le guidait, du coup celle de héros qui s'était jeté du haut de la tour sur la falaise d'où elle l'attendait. Et comme je le disais, l'une des romances les plus fameux et plus connues était celui de Gongora qui avait ce registre burlesque. Donc c'est une sorte de parodie de la parodie que Guillaume de Castro introduit dans cet échange de sa Commedia. Et en même temps, ça pouvait être aussi, du coup, une parodie ou une moquerie des comédies mythologiques qui s'étaient multipliées. Et à part là, peut-être avec une allusion à un texte de Lope de Vega lui-même, puisque en 1604, dans la liste de ses comédias que Lope publie dans son roman chrétien, El Peregrino en su Patria, en 1604, puis dans la réédition de 1618, une des comédias a pour titre Ero y Leandro. Juste une parenthèse, ce point est intéressant en lui-même, et en particulier pour les discussions autour la préhistoire de la figure d'auteur ou de la notion de propriété littéraire, puisque ce qui fâchait Lope de Vega, c'était le fait, non pas que l'on lui vole ses textes et que l'on en fasse des plagiats, c'est-à-dire qu'un nom qui n'était pas le sien soit associé à une œuvre qui était la sienne, mais tout l'inverse, c'est-à-dire ce dont il se plaignait plusieurs fois dans plusieurs textes, c'est le fait qu'on lui volait son nom et qu'on l'attribuait à des comédias d'une manière ou d'une autre, explicitement ou implicitement, qu'il n'avait pas écrite, mais qui, du fait de son immense réputation, pouvait trouver un marché, et en particulier un marché dans les éditions imprimées, plus grand, si on les pensait comme avoir été écrites par Lope de Vega. Par exemple, dans, je le rappelais la fois dernière, le mode normal de publication des comédias dans l'Espagne du siècle d'or, c'est de publier des partes qui regroupent 12 comédias, et par exemple d'utiliser sur la page de titre le nom de Lope de Vega, alors que les textes pouvaient ne contre le livre lui-même pouvait ne contenir qu'une ou quelques comédias ou aucune de Lope de Vega. Donc c'est ce problème fondamental du plagiat à l'envers, c'est-à-dire non pas voler le texte mais voler le nom pour mettre en circulation, avec plus de chances de succès de vente, des textes que lui n'avait pas écrits. Alors pour fonder ces plaintes et leur donner une efficace, Lope avait décidé, dans ce prologue du Peregrino en su Patria de 1604, de donner la liste autorisée de ces comédias. Il y a donc de longues listes de titres, et il avertit le lecteur que si le lecteur rencontre une comédia qui a un autre titre que celui que ceux qui sont là réunis, il doit la désattribuer à Lope de Vega et donc reconnaître le vol du nom. Donc une conscience d'œuvre, puisqu'il définit lui-même le corpus de des titres qu'il revendique comme ayant été les siens. Et c'est dans la liste qui est passionnante, puisque d'une part, il y a des textes qui ont été réellement publiés, imprimés, il y a d'autres textes qui n'existent que comme manuscrits, autographes de Lope, et d'autres qui sont perdus, au moins dont il n'y a pas de traces, ni manuscrites, ni imprimées. Mais c'est un point intéressant, je le signalais dans la leçon inaugurale, c'est-à-dire comment pouvons-nous penser la propriété littéraire avant l'instauration au XVIIIe siècle d'un régime à la fois juridique et esthétique qui la cristallise et qui suppose l'attribution à un nom propre d'une œuvre qui donne droit à propriété de l'auteur sur son texte en un temps préexistant à ce moment dans lequel les histoires appartiennent à tout le monde. La preuve, Don Quichotte de la Manche n'appartient pas à Cervantes. Guillén de Castro peut s'en emparer pour en faire une pièce de théâtre. Donc les histoires appartiennent à tout le monde. Et dans le séminaire, j'avais, en commentant les pièces de Thomas Kyd ou bien du Chevalier au Pilon Flamboyant, aussi rappeler que c'est la même leçon qui vaut pour le monde anglais, que les histoires appartiennent à tout le monde, et le seul délit qui soit constitué juridiquement et judiciairement est un délit qui porte sur le commerce du livre, c'est celui de la violation du privilège de librairie si l'on est en France ou si l'on est dans les Espagnes, Castille, Aragon, Portugal, ou bien si l'on est en Angleterre, les violations du right in copy qu'un libraire-éditeur a acquis auprès de la corporation, de la communauté des libraires et imprimeurs. Il y a donc là un délit juridiquement constitué, mais qui n'a rien à voir avec l'origine du texte ou la paternité du texte, qui a à voir avec les conflits qui peuvent opposer des libraires qui s'emparent en violant le privilège ou le writing copy, des textes que d'autres avaient théoriquement leur monopole, sur lesquels d'autres avaient le monopole de la publication. Et néanmoins, malgré cette absence de constitution juridique d'un délit tel que celui de plagiat ou de celui de vol de nom, vol de texte ou vol de nom, néanmoins, le XVIe et XVIIe siècle sont occupés par des problèmes ou des tensions ou des conflits qui ont pour objet cette propriété sur les textes, ou tout le moins cette relation qui peut exister entre un nom propre et une œuvre. On le voit avec les polémiques littéraires et esthétiques qui se lient avec les continuations apocryphes ou les continuations d'une œuvre par un auteur qui n'est pas l'auteur de premier de l'œuvre. C'est le cas évidemment avec Don Quichotte et la continuation de Avellaneda, apocryphe dans ce cas-là, puisque Avellaneda est un nom qui n'a jamais pu être attribué avec certitude à un auteur réel, identifiable du siècle d'or. Et donc la polémique qui s'ensuit par préliminaire interposée entre Avellaneda, entre guillemets, et Cervantes. On le voit ici avec ce souci de l'attribution pour des raisons fondamentalement esthétiques, pour des raisons qui ont à voir avec les thèmes même des comédias. Lope de Vega considère que sa honra, son honneur, sa réputation est mise en question par l'attribution qui lui est faite dans les éditions imprimées de textes qu'il n'a jamais écrits et qu'il juge évidemment détestables. Donc on voit qu'il y a dans cette préhistoire d'une cristallisation au XVIIIe siècle de la propriété littéraire, des enjeux qui se nouent autour de ces rapports entre le nom et l'œuvre, et ici, c'en serait le cas. Alors, les armes de défense ne sont pas juridiques. Personne ne peut faire procès pour le vol d'une intrigue, d'une histoire, de personnage, ou même d'un nom. Ce qui est l'arme de défense, c'est soit, comme dans le cas du Quichotte, cette guerre par préliminaire, préface, advertissement au lecteur qui peut être menée. Et de ce point de vue-là, les préliminaires de la seconde partie de Don Quichotte en 1615 sont pour partie une réponse à la continuation apocryphe publiée l'année précédente sous le nom de Avellaneda du Quichotte, ou dans le cas de Lope de Vega, de définir un corpus des œuvres qu'il revendique comme les siennes et indiquant au lecteur que toutes celles qui auraient d'autres titres ne sont pas de lui. On voit donc que là, il y a un double intention littéraire de Guillén de Castro avec cette histoire de Leandro et Hero, l'une qui consiste à faire référence aux romances, et en particulier avec ce vers, « Ay, Leandro de mis ojos », et donc de créer parodie de la parodie, et d'autre part de faire référence, peut-être sur le même registre, à cet emploi des intrigues mythologiques dans un certain nombre des comédias de son temps. Elle lui permet aussi de situer dans cette alternance entre scènes de tension dramatique et d'autre part scènes de divertissement comique qui caractérise la comédia. Elle lui permet, juste avant la scène du mariage que j'ai rappelée, d'introduire ce moment comique, parce que Don Quichotte, convaincu que, dans son dialogue avec la jeune fille d'être au bord de la mer et d'apercevoir ce flambeau allumé par Héro, demande à Sancho de l'aider à ôter ses vêtements, et la didascalie, l'indication scénique dans l'édition imprimée, comme je le rappelais, de 1618, c'est la première fois où la pièce a été publiée dans la première partie de Guillén de Castro, dit Don Quichotte se déshabille, va se desnudando Don Quixote, et il se jette dans cet hellespont imaginaire qui est en fait la scène du théâtre, du choral de comédia, Et ici, il y a un jeu très subtil entre la réalité du lieu et d'autre part l'imagination folle de Don Quichotte, puisque Sancho craint très, très fort, non pas que son maître se noie, mais qu'il tombe de la scène et il lui dit « tu vas basculer, qu'Eteras a l'espéignable ». Mais celui-ci nage, comme s'il était dans l'Hellespont imaginaire de son héros imaginé, ou de sa héros imaginé, et en même temps, il se lament de ne pas être accueilli par celle qui normalement devrait être de l'autre côté de l'eau, et il déclare « Mais je dois être aveugle, bel héros, j'arrive, mais donne-moi tes bras, dame aquesos brazos ». Donc il y a une scène tout à fait comique, ridicule de Don Quichotte. On peut imaginer nageant sur les planches du théâtre avec un effet de Sancho qui craint sa chute et non pas que sa noyade. Alors, si on pense à cette scène, je crois qu'il y a deux éléments qu'on peut mettre en place. Alors, l'une qui est dans le droit fil de ce qui est l'écriture de Guillaume de Castro, parce que un peu auparavant, la douane de Lucinda a déclaré, parlant de toutes ces fantaisies extravagantes de Don Quichotte, « El loco es gracioso ». Donc elle dit littéralement, en termes de théâtre, que ce fou qu'est Don Quichotte joue le rôle du gracioso. En même temps, on peut traduire simplement ce fou est amusant, divertissant. Mais on voit que là, Guillén de Castro joue sur double registre, un registre de la langue normale et en même temps la référence aux emplois du théâtre. Donc Don Quichotte est bien assigné dans cet emploi du gracioso par la douane. Un autre point qui peut attirer l'attention, c'est pourquoi, alors évidemment dans la logique de l'histoire de Leandro et Héro, il y a cette natation, cette capacité de Don Quichotte à nager. Mais en lisant ça, je me suis souvenu d'un autre moment dans Don Quichotte, qui est évidemment postérieur à cette date, puisqu'il s'agit de la deuxième partie. On rejoint un peu ici les thèmes que j'avais évoqués en finissant la fois dernière du livre de Pedro Cátedra, El sueño caballeresco, tout récemment publié, qui était la matière en étant les conférences qu'il avait données ici, qui est que dans les portraits successifs des chevaliers, depuis le portrait qui est celui de la littérature, des romans de chevalerie, ce qu'il appelle la chevalerie de papier, jusqu'à ces représentations qui sont souvent parodiques des chevaliers dans les fêtes de cour, les tournois aristocratiques dès les commencements du XVIe siècle, s'ajoute un troisième moment qui est le moment de la chevalerie curiale ou de cour qui serait à la fois la réalité sociale qui se construit lorsque le rêve d'une restauration d'un rôle politique, militaire, de la petite noblesse, de la hidalguía, qui avait pu être esquissée avec les réformes de Philippe II, a échoué, et que donc il y a là un modèle de cour, non pas nécessairement une existence de cour, mais un modèle de cour qui s'impose, et qui serait en quelque sorte la cible de la parodie dans la seconde partie du Quichotte en 1615. Et dans ce dialogue de la deuxième partie entre une chevalerie de cour et la chevalerie errante, à un moment donné, qui est le chapitre 18 de la seconde partie, lors de la rencontre avec le chevalier ou l'homme au manteau vert qui l'amène dans sa maison, c'est un hidalgo qui serait en quelque sorte l'anti-Don Quichotte, puisqu'il est fortuné alors que Don Quichotte ne l'était pas, puis alors qu'il vit dans un monde de sociabilité, de plaisirs qui sont ceux de la petite ou moyenne noblesse, par exemple la chasse, alors que Don Quichotte Lyotte est enfermé dans sa bibliothèque et la lecture des romans de chevalerie. Il y a ce même chevalier au manteau vert possède, dit le texte de Cervantes, 48 livres qui sont soit des histoires, soit des livres de dévotion, mais il signale avec force que les livres de chevalerie n'entrent pas dans sa bibliothèque. Donc il y a une sorte d'anti-Don Quichotte, un portrait à l'opposé de Don Quichotte, même si, comme on peut le faire remarquer, le fait qu'il soit tout entier habillé de vert, son manteau, que ses éperons, son baudrier, ses harnais, que peut conduire à une sorte de figure inverse de cette figure raisonnable et stable de l'Hidalgo, puisque le vert est associé traditionnellement avec cette couleur de la déraison, de l'extravagance ou de la folie. Alors, le statut du chevalier au manteau vert est problématique, anti-Don Quichotte et en même temps peut-être parent de Don Quichotte par cette couleur verte. Mais dans la discussion que Don Quichotte entame avec le fils de ce chevalier qui est un étudiant de Salamanque, mais qui se voue fondamentalement à l'étude de la poésie, à la production de la poésie, il y a un moment dans lequel Don Quichotte trace un portrait idéal de ce qui est la science de la chevalerie, mais de la chevalerie errante, opposé à sa dégradation dans la chevalerie de cour, et alors énumérant tous les savoirs qui doivent être ceux parfaits de ce nouveau type de chevalier errant, il en vient à un moment donné où, après avoir évoqué toutes les compétences comme juriste, théologien, médecin, astrologue, mathématicien, toutes les vertus théologales et cardinales, il ajoute, et entre autres menus détails, qu'il doit savoir nager aussi bien que nageait, dit-on, le poisson Nicolas. C'est une figure folklorique d'un homme-poisson qui peut nager sur des distances et des profondeurs inouïes, savoir aussi ferrer un cheval et arranger la selle et la bride. Et dans cette sorte de portrait encyclopédique du chevalier parfait, tel qu'on le voit, c'est le chapitre 18 de la deuxième partie, et qui est en quelque sorte un cumul de toutes les figures successives possibles de la chevalerie, on voit que ce savoir nager est présent. Alors évidemment, donc, Guillaume de Castro ne pouvait pas lire en 1608 un texte publié en 1615, mais l'idée que l'histoire de Leandro Hero lui permettait d'introduire cette référence parodique, ironique, burlesque à une compétence de natation des chevaliers peut renvoyer évidemment un socle plus largement et antérieurement partagé sur ce lien entre des exercices considérés comme chevaleresques, physiques, et d'autre part la moquerie de Don Quichotte comme gracioso. L'histoire de Leandro Hero, je m'y attache puisque évidemment c'est une différence avec le texte de Cervantes, permettait aussi une thématique que j'avais suggérée comme une possibilité pour la pièce anglaise de 1613, c'est-à-dire de mettre en parallèle sur deux registres, le registre du comique, du gracioso, et le registre du tragique des protagonistes essentiels, de donner correspondance. Et vous le savez, c'est un des traits fondamentaux des pièces du XVIIe siècle, c'est-à-dire de développer des intrigues parallèles sur deux niveaux, sur deux registres sociaux. On peut le voir dans les comédies ou dans les tragicomédies. Et ici, Don Quichotte, Leandro, nageur ridicule qui va non pas se noyer dans l'Hellespont, mais tomber des tréteaux du théâtre ou des planches du théâtre, trouve son équivalent dans Cardenio, qui lui aussi est dans la même situation, puisque avant la scène dramatique du mariage, et grâce au billet que lui a transmis Lucinda, c'est le même dispositif qui est en place, c'est-à-dire que Lucinda éclairera ou non la tour de la maison où doit se célébrer le mariage pour lui apprendre son sort. Et le texte dit, c'est ce qu'elle a indiqué à Dorothea, qui est chargée d'en informer Cardenio, dis-lui que je placerai une lumière au sommet de cette tour parce que s'il vient de nuit, elle pourra lui servir de nord. S'il la voit briller, qu'il comble mon espérance. Mais s'il la voit éteinte, je le saurai aussi, et qu'il me pardonne, ce fer m'aura tué, promesse du suicide, qu'il m'estime et ne me pleure pas, et qu'il ne se mette pas en danger. Donc on voit qu'ici, le même flambeau de héros pour Leandro était le flambeau que Lucinda allait allumer pour Cardenio, que s'il était allumé, il y avait une espérance, ça veut dire qu'il fallait qu'elle vienne pour empêcher le mariage, et s'il n'était pas allumé, ça voulait dire que le mariage avait été inexorable, mais qu'elle s'était donné la mort, comme elle le lui promettait. « Habráme muerto este acero », ce fer m'aura tué. Et pas plus que Leandro, Cardenio ne voit de flambeau allumé sur la tour, ce qui le plonge dans la désespérance. Mais comme on le sait, Lucinda ne tient pas ou ne peut pas tenir sa promesse, et elle n'est ni Portia ni Lucrèce, deux figures de femmes qui se suicident, qu'elle met en avant et qu'elle n'imite pas. Donc on voit qu'il y avait ici, avec trois registres possibles de cet ajout de Guillén de Castro, la référence mythologique à Leandro Hero, la comédie jouée par la servante ou la suivante, et Don Quichotte qui incarne les personnages et qui permettent cette scène ridicule de Don Quichotte se déshabillant et nageant sur le théâtre, et puis en écho la même structure de scène, une flamme allumée dont dépend le sort amoureux des personnages, qui était celle qu'avait mise en place Lucinda pour Cardenio. Alors, dans la troisième acte de la comédie, le texte finit là où commençait, en fait, la nouvelle, si je puisse dire, entre guillemets, de Cardenio, puisque vous vous souvenez que tout commence par le fait que Don Quichotte, qui s'est retiré dans la Sierra Morena pour imiter, il ne sait pas très bien, soit Orlando Furioso, soit Amadis mélancolique, rencontre avec Sancho Cardenio, et que Cardenio commence à raconter son histoire. C'est donc la retraite dans la Sierra Morena des deux personnages qui permet de commencer ce qui va se déployer de chapitre en chapitre, entremêlé avec les aventures de Don Quichotte, l'histoire des amoureux. Ici, évidemment, rétabli dans un ordre chronologique différent, c'est ce avec quoi termine la comédia, le mariage, on l'a vu, dernière scène de l'acte 2, et le départ de Cardenio, bouleversé, qui, par désespoir d'amour, fait retraite dans Sierra Morena. Alors, Guillén de Castro suit assez fidèlement le texte de Cervantes, mais évidemment, il le redistribue totalement dans un ordre chronologique différent, et suivant les séquences qui font avancer l'acte, la description par un paysan de l'étrange comportement de Cardenio, qui maltraite les bergers en leur criant « Ah, Lucinda m'a tué et le marquis m'a trompé. Ay, que Lucinda me ha muerto y Cardenio me ha engañado el marqués. » Puis ensuite la rencontre brutale, puisqu'il y a cet argument autour de cette dispute autour d'Amadis avec Don Quichotte et Sancho. Puis la décision de Don Quichotte d'imiter en tout, comme Cardenio, la fureur de Roland ou la folie d'Amadis, après la trahison de leur dame, Lucinda pour Cardenio, possible trahison de Dulcinée pour Don Quichotte, Et comme le dit Don Quichotte, là, très proche du texte de Cervantes, « Quiero ser en mis locuras entre Roldán y Amadís », je veux être dans mes folies entre Roland, c'est-à-dire Roland jaloux, misérable, après la trahison supposée d'Angélica, et qui décide de se transformer en homme sauvage, en arrachant ses vêtements, en jouant le rôle ou étant habité par la folie, ce qui est le personnage que Cardenio a adopté et qui tente à un moment donné Don Quichotte, et Amadís, c'est-à-dire ici désespéré de la perte de l'amour d'Oriana, qui se lui transforme en un personnage érémitique qui se retire dans la caverne et prend le nom du beau ténébreux, Bel Ténébreux. Et puis finalement, la rencontre du curé et du barbier partis à la recherche de Don Quichotte en compagnie de Cardenio, puis de Dorothea. Et Guillén de Castro ne manque pas non plus l'épisode qui apparaît à ce moment-là et qui est un ressort fondamental pour Cervantes pour lier l'histoire de Don Quichotte avec les histoires des amoureux unis ou désunis, et qui est le moment où le curé et le barbier, ayant imaginé que pour retirer Don Quichotte de la Sierra Morena, il fallait jouer une petite intrigue, celle d'une princesse éplorée qui vient lui demander secours et qu'il va, il va se mettre en route avec elle pour qu'elle récupère son royaume. Cette histoire où Dorothea joue le rôle de la princesse Micomicona, qui devient Nicomicona dans le texte de Guillén de Castro, peut-être à cause d'une erreur de composition d'un des compositeurs de Felipe May, l'imprimeur de 1618, est mise en scène, mais non pas curieusement, mais parce qu'il s'agit de hâter la fin de la comédia, qui était un genre qui respectait de strictes limites de temps. Et donc, on ne peut pas étendre, comme dans une histoire, à l'infini, les péripéties. Finalement, ce stratagème est mis en œuvre. Il donne lieu à une scène amusante où Dorothea Nicomicona décrit les malheurs qui lui sont arrivés, et Don Quichotte fait fort de pouvoir la rétablir dans son royaume. Mais assez rapidement, le stratagème tourne court, il n'y a aucune exploitation postérieure de cette histoire, et le dénouement se situe brutalement à la fin. Dans la dernière scène, avec un passage au second stratagème que le curé et le barbier ont décidé dans le texte de Cervantes, mais après que l'histoire de la princesse Micomicona ait été accompagnée plusieurs chapitres, c'est-à-dire en fait d'enfermer Don Quichotte dans une cage ici dotée de poulies, et qui lui faisant croire qu'il est victime des enchantements de mauvais enchanteurs, et c'est sur ce char d'un Don Quichotte encagé que se termine la comédie et que Don Quichotte rejoint sa maison. Alors, dernier point que je voudrais mentionner, puisque notre habitude est de faire une petite pause entre les deux heures de ce séminaire, quand je mentionnais les contraintes qui, lié au genre et à sa représentation, puis peuvent amener à des effets textuels que parfois on oublie, c'est-à-dire qu'il y a comme une projection rétrospective d'une imagination littéraire qui n'aurait pas de contraintes ou de brides, qui ne serait purement portée par le génie esthétique. Je crois que chacun des genres a des contraintes, évidemment dans le cas des genres poétiques, a des contraintes formelles, on y reviendra immédiatement dans la seconde heure, mais dans le cas de la comédia, la contrainte était celle de la durée, et dans un texte tout à fait essentiel de Lope de Vega, pratiquement contemporain de cette comédia, puisqu'il est de 1608, El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, l'art nouveau de faire les comédias à cette époque, il insiste fondamentalement sur le fait que la patience des spectateurs est limitée, qu'il faut donc une durée de la, des, de la comédia soit respectée et que pour que cette durée soit respectée, le dramaturge doit respecter la longueur d'un certain nombre de cahiers ou pliés dans son écriture dramatique et avec le même goût du chiffre qu'il obsédait pour énumérer le nombre des comédias qu'il avait écrites, de la même façon, il mesure tout à fait précisément en nombre de cahiers, en nombre de pliegos, la longueur que doit avoir l'écriture manuscrite de la comédia pour qu'elle corresponde à la durée raisonnable, un peu moins de 2 heures, de la représentation. Et il applique à lui-même d'ailleurs ces règles, puisqu'on a, à l'inverse des autres dramaturges du temps, ni en Angleterre ni en France, des manuscrits autographes de certaines des comédias d'Alope, curieusement d'ailleurs des manuscrits qui n'ont jamais été publiés dans le temps. Par exemple, c'est le cas à l'Université de Pennsylvanie, il y a 2 comédias d'Alope de Vega, Los Benavides et Carlos Quinto en Francia, et il respecte à la lettre la longueur et le nombre de pliego que chaque acte, c'est-à-dire d'un cahier, format quarto, plié une fois, donc cela représentait 4 pages d'écriture, de feuillets, et il y a une adéquation parfaite entre son écriture autographe et cette longueur de la comédia qui correspondait à la durée de la représentation. Et du coup, cette contrainte peut avoir des effets, évidemment, sur l'écriture. Et par exemple, c'est très clair ici, dans la troisième jornada, le troisième acte de Guillén de Castro, ce brusque passage du premier au deuxième stratagème, sans qu'il l'exploite plus que dans une scène, la fable de la princesse Nico ou Miko Nikona, pour passer brutalement au deuxième stratagème, alors qu'évidemment, dans le texte de Cervantes, les choses ne sont pas ainsi. La durée était finalement beaucoup plus étirée et le passage de la fable de la princesse dépouillée de son royaume à la fable des enchanteurs capables d'enfermer dans une cage dont personne ne peut le sortir Don Quichotte se déploie à travers une écriture beaucoup plus étirée. Mais là, je crois qu'on a un des exemples, de cet effet des contraintes de la forme sur le texte, qui, je crois, est une donnée absolument essentielle pour comprendre, y compris dans leur esthétique, les textes littéraires. Alors, je terminerai dans la deuxième heure notre compagnonnage avec Guillén de Castro. Donc, selon ce qui m'avait été demandé, on peut faire une petite pause et reprendre à 11h10. Si vous le voulez, cet exposé.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.